Salut tout le monde, bienvenue sur notre chaîne New Wind en vent nouveau. Je suis Marguerite, très honorée de recevoir aujourd'hui M. Mamadou Sow, un spécialiste dans la conception, la planification, le suivi et l'évaluation des projets et programmes concernant la protection de l'enfance. M. Sow est titulaire d'un master en management de projet et d'une licence professionnelle en gestion de projet aussi. Depuis janvier 2013, il est chef de la division études et programmes à la direction des droits, la protection de l'enfance et des groupes vulnérables du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance, MFI, au Sénégal. Dans le passé, M. Sow fut coordinateur de projet de l'ONG Demgalam, à Guédiawaye et à Podor. Il a aussi un passé pédagogique et d'entrepreneur social. Je voudrais spécialement mentionner le fait qu'en dehors de son travail à la direction des droits de la protection de l'enfance et des groupes vulnérables, vous avez eu l'opportunité de participer à des réalisations d'études de projets concernant, je cite, la capitalisation des bonnes pratiques communautaires dans l'identification et la prise en charge des enfants victimes de traite, de maltraitance au Sénégal et en Guinée. Par exemple. Merci de répondre à l'appel, M. Sow, et bienvenue.
Bonjour, Marguerite. C'est un plaisir de répondre à ton appel. Je te salue, je salue aussi tous tes auditeurs. C'est une fierté de savoir tout le travail important que tu es en train de faire pour toi et pour ton pays. Merci pour l'invitation.
Ben écoute, le plaisir est partagé. Je sais très peu par rapport à toi, par rapport à ce que tu fais tous les jours là-bas à Dakar, et même plus. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. D'abord, déjà, notre thème de ce jour répond à une préoccupation mondiale, la protection de l'enfant. Bien entendu, l'inquiétude est globale et il est facile de s'y perdre. Nous allons rapidement survoler la situation des droits de l'enfant dans le monde et ensuite spécifiquement faire le point sur le cadre légal, les difficultés et les réponses aux enjeux nationaux et régionaux. En tant qu'Africain, Mohamedou, cela va de soi qu'on a une idée de la crise des droits de l'enfant, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait. Et je te remercie aussi beaucoup pour l'intérêt que tu portes à ce sujet qui, très rarement, je l'avoue, ne fait pas l'actualité au niveau international et même au niveau national. C'est des questions qui sont traitées plus sous l'angle des faits divers que de l'appel du droit, alors que nos enfants, les enfants, c'est comme on dit souvent, c'est l'avenir de notre pays, l'avenir du monde. Aujourd'hui, si je prends l'exemple du Sénégal, sur 15 millions d'habitants, nous avons à peu près 7 millions d'enfants, c'est-à-dire d'individus âgés de 0 à 18 ans.
Mon Dieu, wow.
Leur droit, leur protection est une obligation pour l'État, pour les familles, pour les communautés, pour la communauté internationale. Cette situation, on le retrouve aussi en Afrique, où c'est un, comme je dis souvent, c'est un continent d'enfants. Dans tous les pays africains, quand on regarde la pyramide démographique, les enfants sont plus nombreux. Et malgré maintenant tout ce que nous connaissons comme mutation politique, sociale, économique, on voit que les enfants ne sont pas assez bien pris en compte dans les priorités par le gouvernement. Les crises auxquelles nous faisons face, ce sont les plus vulnérables, les victimes les plus faciles qui succombent à ces crises-là.
Mais monsieur... Mohamedou, désolée de t'interrompre. Juste quand on parle de crise, moi ça me brise le cœur personnellement. Je vois tous les jeux, comme tu le disais, dans les faits divers, on met toujours les histoires des enfants, comment ils sont. On va rentrer dans les détails un petit peu après sur quels sont les maux dont souffrent les enfants, mais de façon générale, avant de se faire cette question, une affaire gouvernementale ou internationale, commençons par le nœud du problème, la famille. Mais enfin, que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que le tissu familial n'arrive pas à protéger ses propres enfants?
Oui, en fait, l'enfant grandit dans un environnement. Et cet environnement, il est connecté à un autre environnement. L'environnement familial est connecté à l'environnement communautaire, qui elle-même est connectée à un environnement plutôt formel qui est l'État, qui est un cadre. Et les familles, bien sûr, ont une responsabilité. Mais dans cette responsabilité des familles, il y a une responsabilité plus grande. C'est la responsabilité confiée à l'État. Une famille peut s'occuper du bien-être de son enfant, peut donner à manger, peut donner les valeurs, transmettre les valeurs familiales, communautaires. Mais il y a des questions, il va sans doute, la famille n'a pas le monopole de ces questions. C'est les questions de sécurité, les questions liées à l'accès aux services sociaux de base, comme l'éducation, la santé. Ça, c'est des questions, les responsabilités sont confiées à une instance plus élevée. Donc, s'il y a défaillance de cette instance, et si on a encore des familles qui sont moins résilientes face aux chocs, aux mutations, on a la crise de l'emploi, on a la crise, on a le chômage persistant, on a la promotion du capitalisme, on va essayer de chercher quelque chose. Sa famille, nourrir ses enfants. Donc, les familles, du coup, perdent trop de temps. Ils n'ont plus de temps à consacrer à l'éducation de leurs enfants. Et l'État qui était là, supplé aussi, l'État, dans ses politiques, dans ses réponses aux familles, l'État n'accorde pas trop d'importance à la prise en charge des besoins des enfants. Donc, ce qui fait que les enfants sont à eux-mêmes. On se retrouve dans un système où aussi bien l'enfant que la famille, l'État et la famille n'arrivent pas à répondre aux besoins de l'enfant.
D'accord. Aussi, enfin, ce débat aussi éducatif. Par exemple, est-ce que tu peux nous exposer les problèmes ou les situations des enfants à travers le monde? Parce qu'en même temps, quand je dis les situations, c'est que c'est pas la même situation un enfant à Dakar ou un enfant qui vit, je ne sais pas, quelque part en Californie ou même dans les Pays-Bas, par exemple. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ce qui se passe là-bas concrètement?
Oui, c'est des situations assez diverses, dépendant des contextes des pays. Parce que globalement, on voit que dans le monde, l'Afrique a la population d'enfants la plus importante, l'Afrique et l'Asie dans le monde. Et dans nos pays en Afrique, nous avons vu que les enfants font face à des questions, des difficultés de nutrition, les questions liées à la nutrition, les questions liées à l'accès à la santé. Ça, c'est des questions auxquels nos enfants continuent à faire face. Alors que si on regarde de l'autre côté, en Europe, aux États-Unis, ces questions, c'est des questions qui sont déjà réglées. Donc, pour la plupart, les enfants à l'école en Europe, en Occident, n'ont pas de questions, n'ont plus de problèmes pour aller à l'école, pour apprendre
C'est vrai.
dans le bas. Alors que chez nous,
Tout à
voilà,
fait.
on n'a pas d'enseignants, on n'a pas de fourniture, on n'a pas assez d'écoles, on a beaucoup d'enfants. Donc, voilà des problèmes auxquels les enfants ont besoin, des questions de droit qui se posent, le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à la famille, même l'état civil, la déclaration de l'enfant à la naissance. C'est des questions auxquelles nous sommes confrontés dans nos pays africains. Tout simplement, il y a une réticence un peu à faire des droits de l'enfant une affaire africaine. Parce que souvent, nous pensons que les droits de nos enfants, c'est quelque chose qui nous vient, n'est pas la réalité.
Ah bon.
Parce que, non, c'est pas la réalité. Aujourd'hui, chez nous, on avait ce qu'on appelle au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, la charte du Mandé. Et là, la charte du Mandé, dans la République traditionnelle, il y avait ce qu'on appelle la charte, c'était la première constitution africaine. Ah, c'est là où on reconnaissait les questions de légalité, de droit, l'obligation des familles à soutenir, à protéger les enfants.
Et qu'est-ce
Donc,
qu'on en
dans
a
nos...
fait?
Oui, je veux dire, nous avons le modèle de société que nous avons, que nous avons, auquel nous aspirons n'est pas conforme à nos normes. Et forcément, il y a une cassure. Les normes sociales qui épousent notre existence est différente à notre projet de vie au plan international. Nous sommes une génération qui veut être connectée à un monde ouvert, et ce qui est normal. Maintenant, il y a forcément une rupture de dialogue, disons-le, ou bien, comment on appelle, une confusion qui ne facilite pas un peu l'intégration des droits de l'enfant dans nos pratiques. Hein? Ça, c'est des choses qui vont venir, qui vont venir, qui commencent à arriver. Et on l'a vu en Afrique, malgré qu'il y a une convention internationale des droits de l'enfant, en Afrique, une charte africaine. Dans la charte, on a vu qu'on a introduit les notions de responsabilité des parents, la notion de devoir de l'enfant. Donc, c'est des questions à fondamental, à essence sociale d'abord, dans un premier temps.
En parlant de ces chartes, par exemple, peut-être que, enfin, quand je regarde, moi j'ai grandi aussi à Dakar, et quand je regarde ma situation quand j'étais gamine, je me rends compte que qu'il Alors,
Oui.
je disais, désolé, on a eu une petite interruption. Je disais, par exemple, j'essaie de rapprocher, de, enfin, d'apporter une touche personnelle à ce débat, parce que quand on dit les enfants, souvent se sont déconnectés de ces personnes qui mendient dans la rue, par exemple. Et, mais quand on regarde autour, moi, je me demande, je me pose toujours la question, qui sont ces personnes, qui sont ces enfants, d'où viennent-ils? Parce que je ne vois pas une vraie connexion, je ne vois pas que mon voisin d'à côté a abandonné son enfant, ou peut-être que je ne suis pas au courant, mais enfin, ma question est... Quels sont les divers maux dont souffrent les enfants en ce moment en Afrique, ou quels sont les manques, les expositions auxquelles les enfants souffrent en ce moment en Afrique, chez nous, et même au Sénégal, par exemple?
Oui, il y a d'abord ce qu'on appelle les pratiques culturelles préjudiciables au bien-être de l'enfant. Donc ça, c'est des pratiques culturelles. Comme je dis, la question des droits de l'enfant, c'est des questions de normes de société d'abord. Donc c'est des normes. Par exemple, si je prends l'exemple de l'excision, c'est une pratique culturelle, mais qui, interrogée dans le sens, bien, c'est une pratique qui est bien préjudiciable au bien-être de l'enfant.
C'est vrai.
Si je prends la question du mariage d'enfant, les mariages, ça, c'est une pratique qui est là, préjudiciable au bien-être. La question, par exemple, de la mendicité, c'est une pratique bien préjudiciable. Il y a ces questions. Il y a la question de négligence. Par exemple, le fait, par exemple, de ne pas déclarer les enfants à la naissance. Ça, on en a aussi, on a beaucoup de formes de négligence. Ensuite, il y a les questions de maltraitance, tout ce qui est exploitation, exploitation par le travail, exploitation sexuelle, agression physique. Donc ça, c'est aussi des réalités auxquelles les enfants sont confrontés. Maintenant, toutes ces réalités-là, c'est des questions qui sont des problématiques qui violent leur droit, conformément aux engagements des populations et des États, parce qu'on a des sociétés qui fondamentalement sont protectrices de l'enfant. À la base, quand on donne un enfant en mariage, l'argument qu'il y a derrière, c'est pour le protéger. Quand on excise un enfant, c'était pour le protéger. Quand on, par exemple, quand on court un corporel, c'est pour quelque part le protéger. Mais cette manière de faire, maintenant, je trouve que cette manière de faire n'est pas forcément l'approche la plus appropriée dans la prise en charge de l'éducation de l'enfant. Ce n'est pas tous les enfants qui sont frappés, qui sont maltraités, utilisés, qui réussissent plus que les autres enfants qui grandissent dans des environnements beaucoup plus calmes, beaucoup plus sereins.
Oui, c'est vrai.
C'est ça la réalité. Donc, voilà quoi. Maintenant, il y a beaucoup de problèmes. Bon, c'est des problématiques en fonction des contextes politiques, culturels, sociaux.
C'est vrai.
Mais chez nous, la mendicité, elle est là, elle est présente. Elle est visible, quoi. On n'a pas besoin de faire des études pour la
Pour
comprendre.
l'avance, c'est bien vrai. Mais par exemple, en parlant de mendicité, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut parler d'une crise ou d'une crise de la situation des enfants ou de la mendicité? Comme je dis avant, c'est vrai que quand j'étais plus jeune, je voyais la mendicité, mais je peux dire en ce moment, à mon âge, chaque fois que je me promène dans les rues de Dakar, c'est envahissant, ils sont partout.
Oui, en fait, c'est une question complexe. C'est une question qui, à la base, était une norme sociale qui avait un but, c'était un but d'éducation, de socialisation de l'enfant dans sa communauté, mais qui, par la suite, a dévié sous la forme la plus, l'une des formes les plus mauvaises, c'est devenu même pratiquement de l'esclavage. Ça tire plus à la traite. C'est-à-dire que maintenant, on a des enfants qui ne sont pas qui mendient pour faire nous vivre des adultes, qui sont soumis à l'exploitation des adultes. Et malgré maintenant l'arsenal judiciaire, l'arsenal politique, les mesures que l'État est en train de prendre, on ne peut pas, on n'arrive pas à régler la question. Parce que le soubassement, la base, ce qui explique l'argumentaire utilisé
Pour
pour laisser persister cette pratique, c'est de faire qu'on est en train
les
d'éduquer
éduquer.
les enfants, de les éduquer parce que ça faisait partie, c'était une ancienne forme d'éducation, disons-le. Dans nos sociétés, on a vu que c'était une norme. Maintenant, on se rend compte que ceux qui sont venus, les exploitants, les brigands, les trafiquants d'enfants sont plus nombreux que ceux qui avaient cette
Cette
idée de,
éducation.
exactement, de pérenniser cette forme d'éducation. Et aujourd'hui, la question est devenue une question critique qui nécessite pour l'État de prendre des mesures les plus appropriées parce que c'est devenu une question d'ordre de sécurité publique. Et c'est une question vraiment sur laquelle les pays africains, particulièrement le Sénégal, traînent les pieds. Il y a, moi je dis carrément, il y a une absence de volonté politique. Il y a une absence de
C'est
volonté
aberrant.
politique à prendre ces questions-là. Parce que au plus haut niveau, les gens ont peur d'adresser les réponses qu'il faut. Par exemple, la justice ne fait pas le travail. Tu ne verras jamais aucun maître coranique, exploitant d'enfants, qui est arrêté parce qu'il est en train de maltraiter les enfants. Au niveau des villages, des quartiers, des communes, les populations aussi jouent leur rôle, ne facilitent pas la tâche à l'État. L'exemple que je donne, c'est quand quelqu'un ouvre un débit de boisson dans un quartier, il y a plus de risques pour lui d'être poursuivi, pourchassé par les adultes, quand que quelqu'un qui débarque avec 30 enfants qui les expose à la mendicité.
C'est choquant, c'est très choquant.
Ça, c'est les populations qui ont une responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, on peut s'arranger dans un quartier, on a un comité de quartier, on surveille le quartier, on met la sécurité, on met tout pour veiller à ce que le quartier soit dans de bonnes conditions. Quelqu'un débarque dans le quartier, il loue une maison, il garde par devant lui 30 cartes, enfin, ça ne choque personne. Mais s'il avait ouvert un débit de bar ou bien un numéro de passe, tu vas voir les populations vont se réveiller pour dire, attention, cette personne-là, elle n'est pas, elle est mauvaise. Elle est là, elle veut détruire nos enfants. Alors que,
Choquant. C'est une
tu
complicité en
comprends?
fait. Enfin, les voisins sont complices de cette situation.
Population encourage cette situation. Si aujourd'hui l'État prend les mesures, les premières personnes à tirer sur l'État, c'est les
C'est
populations.
vrai.
Et si les juges, si aujourd'hui tu demandes à un magistrat de prendre les mesures qu'il faut, de faire son travail, son job, il va vouloir le faire, mais demain, il y aura une pression terrible qui viendra des populations qui vont, il faut laisser les gens travailler, ils n'ont rien à faire.
Oui.
Il y a un laxisme, quoi. Un laxisme qui est là. Il faut constater.
C'est
Voilà.
vrai.
Maintenant, c'est quoi? C'est ce qu'on est en train de chercher.
Mais parlons de ces lois-là. Parlons de ces. Bon, parce que ça fait quand même partie des solutions. Est-ce qu'en ce moment, il y a des bases légales pour. Quand j'entends tout ce que tu viens de dire par rapport à. Enfin, comment est-ce que le laxisme dans le cadre légal, dans la justice par rapport à ces situations. Mais je me dis, qu'est-ce qui est disponible au niveau des lois afin de prendre soin de ces problèmes-là?
En fait, ce n'est pas une question de loi pour moi. Depuis que je travaille dans le secteur, il y a les lois. Les lois sont là. Elles sont bien, elles ne sont pas bien. Mais tant qu'on ne les applique pas, on ne peut pas mesurer leur
C'est
pertinence.
vrai.
Donc, on a des lois, on a ratifié les conventions internationales. Le Sénégal a tout ratifié. Si je prends l'exemple, on a ratifié les conventions. L'ensemble des conventions, des lois qui protègent les enfants sont là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a un système judiciaire qui est bâti de telle sorte que l'enfant, la justice pour mineur, n'a pas de valeur.
Ah bon.
Oui, aujourd'hui, vous prenez un juge, vous l'affectez au tribunal de grande instance, vous êtes chargé des mineurs, c'est comme une sanction.
Ah bon.
Parce que ce n'est pas un travail valorisant. Ça veut dire que la perception qu'on a, c'est que rendre justice pour les enfants ne vaut rien. Ça, c'est comme une sanction dans le milieu, dans la chaîne de responsabilité au niveau de la justice.
Wow.
On a plus d'importance quand on s'occupe des dossiers de trafiquants de drogue. On a plus de quand on est dans la chaîne pénale, on joue un rôle plus important. C'est la même chose quand tu prends, par exemple, la police ou la gendarmerie. Ceux qui sont chargés de faire le travail préparatoire pour que la justice puisse agir. Aujourd'hui, un policier ou un gendarme, il est plus fier quand il arrête un délinquant, un trafiquant de drogue ou bien quelqu'un qui a commis un crime qu'un marabout qui exploite des enfants. Donc, ça ne l'intéresse pratiquement pas. Donc,
C'est
ce qui fait
choquant.
que ça rend difficile l'application de la loi. C'est
C'est
parce
ça.
que l'acteur qui travaille pour appliquer la loi, il a la loi, mais lui-même, il n'est pas motivé au niveau de l'ordonnancement du système de justice. Il occupe une position très, très faible. Celui qui doit travailler pour que les enfants soient protégés, la police, la gendarmerie, eux aussi, dans les interventions, tu verras jamais, par exemple, des patrouilles dédiées aux enfants, pour protéger les enfants. Tu verras jamais. Aucune brigade au Sénégal ou bien de police ni de gendarmerie n'a des patrouilles spécialement dédiées aux enfants. Il n'y a même pas des agents de
C'est
police.
très choquant vu la situation en fait. C'est
Oui.
même pas un petit problème, ça. C'est
Mais c'est
gigantesque,
le
c'est
cœur du
partout.
Sénégal. Si ce n'est pas réglé, c'est tout ce qu'on fera. Tout ce qu'on fera ne vaudra absolument rien. Je ne sais pas si tu as vu l'image il y a 10 jours. On était en train de préparer l'inauguration d'un train régional express. Mais il y a un chauffeur de Diaganyaï qui a essayé de traverser les rails.
Sans blague.
Un train électrique. Oui, un train électrique. Mais ce gars-là, connecté à la République, il n'a pas été éduqué aux valeurs de la République.
Non.
Il ne connaît rien que comment un pays marche. Et tous ces enfants-là qui sont dans ces milieux-là, laissés à eux-mêmes, c'est des enfants demain, ils vont essayer d'être des chauffeurs qui vont emprunter une route, qui ne connaissent pas c'est quoi une autre route, qui vont peut-être ouvrir des boutiques qui ne sauront pas l'importance de payer les
Les
impôts,
impôts, oui.
les charges pour l'État. Une fois le service de l'État, l'État sera obligé de dépenser de l'argent pour assurer, pour corriger les fautes qu'ils sont en train de commettre.
C'est un cercle vicieux.
Exactement, c'est ça. Tant qu'on ne règle pas la question des enfants, on crée des aéroports, faire des ponts, des autoroutes, n'importe quoi. Mais les personnes qui sont censées les utiliser ne sont pas préparées à comprendre l'importance de ces infrastructures.
C'est vrai.
Donc, c'est ça. C'est comme si on prenait les choses par derrière.
C'est désespérant, en fait. Sincèrement, c'est désespérant parce que on voit les images, on voit les vidéos et après tout ce que je viens d'entendre, je me rends compte que c'est quoi la solution? Comment on fait? Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait?
La solution, c'est simple. C'est qu'aujourd'hui, l'État doit être à équidistance de toutes les chapelles, comme on dit. Il y a une demande d'enseignement religieux. Il y a une demande d'enseignement professionnel. Il y a une demande d'enseignement formel dans le français. Donc, l'État doit pouvoir répondre à toutes ces demandes. Aujourd'hui, il est du rôle de faire en sorte que les enfants qui ont choisi d'apprendre la religion puissent avoir des publics avec des enseignants recrutés par l'État qui sont payés pour donner ce droit à l'enfant. Et si l'État est défaillant à ce niveau, les parents qui ont opté pour que leur enfant suive un enseignement religieux, ils n'ont pas le choix. Ils vont aller confier leur enfant à des structures informelles.
Informel, c'est
Et
vrai.
ces structures, s'ils ne sont pas encore accompagnés par l'État, ils n'ont pas d'assistance de l'État, ils ne sont pas ciblés dans les programmes sociaux. Les structures informelles, ils font avec les moyens du bord. Ce n'est pas une raison qui explique la mendicité, mais je veux dire, c'est ça la réalité, la photographie. Il y a une défaillance de l'État. C'est l'État qui va faire en sorte que le droit à l'éducation soit garanti à tous les enfants.
Et dans
Un
tous les
enfant qui...
niveaux.
À tous les niveaux. Un enfant qui veut étudier le Coran, puisse étudier le Coran, celui qui veut étudier le christianisme, étudie le christianisme, l'autre qui veut étudier l'animisme, étudie l'animisme. C'est comme ça qu'on fait une république. On prend toutes les couches, on les associe à la république. Mais on ne peut pas prendre seulement les enfants qui veulent étudier l'école française, on construit pour eux des écoles, on cherche des enseignants pour eux. Les autres qui veulent étudier le christianisme, s'ils ne payent pas, ils ne vont pas, ils ne peuvent pas le faire. Ceux qui ne veulent pas étudier, qui veulent faire le Coran, ils n'ont pas. Il y a une absence de, je veux dire, de demande conforme de...
C'est tellement pertinent, c'est tellement pertinent ce que tu viens de dire. Et c'est ça, en fait, c'est ça l'intelligence de ce que tu as dit aussi, Mohamedou. C'est que quand quelqu'un réfléchit à une solution, quand c'est évident, et que là, je me dis aujourd'hui, waouh, pourquoi on n'y a jamais réfléchi avant? Pourquoi j'y ai jamais pensé? C'est tellement intelligent ce que tu viens de dire. Mais je me demande, en même temps, en évoquant les solutions qui se retrouvent, qui reviennent vers l'éducation de base, qui renvoient la balle à l'État, au positionnement, au fait qu'on doit avoir un État de droit assez fort, assez patriote pour prendre en compte les questions de l'enfant. Mais au final, ma question est enfin, est-ce qu'il y aurait quelqu'un, enfin, tu es quand même bien placé pour faire tout ça, alors que fait ton équipe dans ce sens-là?
Oui, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. Je l'avoue, en toute franchise, depuis, mettons, 10 ans, 15 ans, il y a les choses sont en train de changer dans le bon sens. Aujourd'hui, par exemple, là où je parle, l'actuel gouvernement a beaucoup travaillé sur ça. Il y a un projet de loi portant statut des DARA qui va réglementer les conditions d'ouverture des DARA,
Ah, OK.
les conditions pour bénéficier des subventions de l'État pour les DARA. Il y a des enseignants qui sont recrutés pour apprendre le Coran aux élèves qui souhaitent intégrer les daara modernes. L'État a construit au niveau national 64 daara modernes.
C'est bien.
Donc l'État a construit aujourd'hui 64 daara modernes. Il est en train de recruter des enseignants. Il y a 100 daara qui ont été sélectionnés dans un programme soutenu par la Banque mondiale qui bénéficient d'un accompagnement de modernisation.
Très bien.
Donc, l'État est en train de régler la question de l'offre éducative. Maintenant, si l'offre éducative est réglée, si aujourd'hui le Sénégalais il a la possibilité d'amener son enfant dans un dans la République, comme il l'amène dans la République, Il sera plus facile d'identifier ceux qui sont là, qui, au nom de l'enseignement religieux, utilisent les enfants pour les exploiter. Là, ce sera plus facile de savoir qui est là pour vraiment travailler et qui est là pour utiliser les enfants. Et
Vrai.
là, les autres réponses peuvent venir. Mais on avait commencé par le bout de la chaîne, c'est-à-dire, en voulant faire des sanctions, on va sanctionner des gens qui sont en train de faire un travail important de formation professionnelle d'enseignement religieux. Alors, si on fait vraiment, on prend même le contenu de la formation. Aujourd'hui, il y a un curriculum sur l'enseignement islamique,
C'est
un
bien.
curriculum qui dit qu'il faut apprendre le Coran sur telle période de l'année,
Ah
il
oui.
faut apprendre tel diplôme. On est en train de former un prototype d'enfant qui apprend le Coran, qui apprend le français, qui apprend l'anglais, qui peut faire un bac, qui peut sortir et être, par exemple, diplômé en informatique ou en géographie
En même
et
temps.
qui a une base d'enseignement religieuse ou une base
Religieuse.
d'enseignement, voilà, exactement. Donc ça, il y a des efforts, mais ce n'est pas suffisant.
C'est vrai.
Parce que les gens ne sont pas restés comme ça sans rien faire. Aujourd'hui,
Ouais.
il y a des réponses proposées par l'État, mais ces réponses ne sont pas priorisées d'abord, parce que on met trop de temps pour faire des choses simples, évidentes, comme tu dis. À la place, on préfère faire des choses plus compliquées, faire un train régional qui coûte 1 600 milliards. C'est plus compliqué que d'ouvrir des dars pour des enfants,
Quel gâchis.
recruter des enseignants.
Quel gâchis.
C'est ça, quoi. C'est une question de priorisation des politiques publiques.
Moi, je ne sais pas. Enfin, après, je pense qu'il y a une déconnexion entre les besoins réels de la population et les aspirations d'un gouvernement de façon générale en Afrique. Parce que il faut pas être un génie pour voir ce qui se passe dans les rues. Il faut pas être un génie pour juste constater nos problèmes et se dire, voilà, voici les solutions qu'on va apporter aux problèmes de tous les jours. C'est choquant. C'est choquant de voir où nos priorités sont. Et aussi, c'est choquant de voir qu'une partie de la population supporte ce genre de délire.
En fait, ce qui se passe, c'est juste que cette déconnexion s'explique de manière assez simple. Nos gouvernants, généralement, ils fonctionnent comme un capitaliste, c'est-à-dire les investissements, l'argent public qu'on utilise, on préfère le mettre dans l'investissement productif. Aujourd'hui, l'État est plus enclin à subventionner l'agriculture ou bien investir dans l'hydraulique ou bien dans la pêche que de construire les écoles. Parce qu'ils vont se dire que, d'ailleurs, même dans le langage, bien que le langage, les expressions utilisées traduisent le sentiment qu'il y a derrière la personne. Parce que quand tu interroges les acteurs, les gens du ministère de l'économie des finances qui préparent les budgets, qui sont les conseillers, je veux dire, du politique, parce que le politique, le président de la République ou les ministres, ça, c'est des politiques qui prennent des décisions, ils ont des visions. Mais les techniciens qui sont derrière, quand ils parlent de l'école, ils parlent de dépenses.
Ah oui.
L'école, ce n'est pas un investissement. Quand on parle de l'école, on dit on va dépenser tant pour l'éducation, on va dépenser tant pour la santé. Alors que quand on parle de faire une route, un forage, on dit on va investir tant pour avoir la route, l'investissement, la route va nous coûter tant et là, on va rentabiliser au bout de 10 ans. Donc, c'est comme un chef d'entreprise qui doit faire sortir une dépense qui dit que si je mets 10 francs, je gagne 10 francs et demi. Alors que l'enfant-là, et puis ça, cet état d'esprit-là, trouve même dans nos familles. Regarde, nous parents, quand tu as 15 000 francs, ton enfant te demande un cadeau, tu dis ça, c'est une dépense, je ne vais pas le faire. À 5 000 francs, parce que c'est un investissement. Ça me permet de régler la question du chauffage jusqu'à pour 10 à 15 jours. Donc, il y a une question de mentalité par rapport aux ressources que nous donnons à l'enfant. Pour nous, l'enfant, le fait de le mettre à l'aise,
C'est
c'est pas
ainsi une
important.
dépense.
Exactement. Il faut arriver à ce que les techniciens changent cet état d'esprit là. Ça change. Le décideur politique qui arrive au pouvoir, qui a une vision, on peut lui dire, écoutez, si tu fais des routes, c'est bon. Tu fais des forages, tu fais des autoroutes, c'est bon. Mais si tu n'investis pas dans l'éducation, tous ces forages et ces routes
Ne
là, au
serviront
lieu
à rien.
d'avoir 20 ans, parce que les gens qui sont chargés de les utiliser, ils ne sont pas préparés à les utiliser. Ils vont les détruire plus vite que prévu. Cela peut se dire que tu as raison. Donc, il faut qu'on investisse dans l'éducation. Mais si c'est lui qui te conseille, il te dit non, il ne connaît pas, il n'a pas la sensibilité enfant, bon, il va dire, faisons la route. Et c'est là-bas aussi il y a des je veux dire, c'est là où on peut avoir de l'argent.
Oui.
Faire une route, gagner là-bas un marché, avoir des pots de vin, c'est plus facile que de
C'est plus
construire un
facile. Oui, c'est un investissement à court terme versus un investissement à long terme. Investir dans l'enfance, c'est un investissement à très, très long terme. Ça prend du temps. Et
hall.
souvent, les politiques qui sont sur place, ils sont là pour une petite période, pour 5 ans, 10 ans, et ils ont envie de faire chanter leur louange. Donc, ce n'est pas forcément rentable pour eux d'investir sur le long terme.
Exactement, c'est ça. Aujourd'hui, les soins, tu peux même pas accepter un pays où tu as 7 millions d'enfants, 7 millions de personnes âgées de 0 à 18 ans. Plus ils sont fragiles, plus tu as une population, la proportion d'avoir une population fragile,
C'est
parce qu'ils
vrai.
vont grandir mal, ils vont grandir malades, ils vont grandir incultes,
C'est vrai.
ils vont grandir avec de la famine, ils vont pas bien portants. Alors que c'est naturel là, si tu les règles, au départ, ils ont de bonnes écoles, ils ont de bonnes santé, ils ont une bonne alimentation,
Ouais.
ils vont grandir, ils vont avoir d'emploi, ils vont être des gens sains.
Des gens sains, des gens forts qui pourront faire tourner l'économie. Voilà, et Mohamedou, c'est un débat très passionnant. Malheureusement, on est pris par le temps. Et voilà, je vais terminer. J'ai une dernière question. D'habitude, ce que je fais, je demande toujours à mon invité, donc à vous. Monsieur So, est-ce qu'il y aurait deux personnes que vous aimeriez entendre sur notre podcast et me les recommander?
Oui, je voudrais vous recommander le doyen Mamadou Abdoulwan, qui est sociologue, qui a travaillé pendant 20 ans sur ces questions, qui est un peu le pionnier de la protection de l'enfance au Sénégal. Je pense que c'est bien. Ensuite, j'aimerais bien aussi que tu entendes mon ami Jean-Pierre Boeuf. J'aimerais bien que tu l'entendes parce que je sais que Jean-Pierre, il peut beaucoup parler avec toi, beaucoup de choses, et vraiment, ça te ferait du
Mais
bien
oui,
de l'avoir. C'est
ma prochaine.
le voir.
Ce sera mon prochain invité,
Voilà.
Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mohamed. En tout cas,
En
voilà,
tout cas,
merci.
merci à toi et je t'encourage. Ça a été un plaisir d'échanger avec toi et à
À
bientôt,
tout bientôt,
Inch'Allah.
merci. Thank you for all listening. Stay tuned. Bye bye.